Mes amis, je suis si enthousiaste. Nous faisons cette série sur certains faits fondamentaux de la foi. En fait, 10 choses que chaque croyant doit savoir sur la foi. Vous devez savoir ces choses. Elles peuvent changer votre vie. Alors, si vous avez une Bible, prenez-la, asseyez-vous avec moi et préparez-vous pour cette parole. Elle va vous transformer. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Bonjour, je suis Bill Esconley. Dieu vous voit, il vous aime, et peu importe ce à quoi vous faites face, il a les réponses. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint, et je crois vraiment que cette série est fondamentale. C'est extrêmement important. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué, c'est impossible. Le style de vie qui plaît à Dieu est un style de vie fondé sur la foi. Et donc, nous avons regardé quelques faits de base sur la foi, des choses fondamentales sur la foi que chaque croyant devrait connaître. Et honnêtement, je suis parfois surpris par des personnes qui sont dans l'Église depuis de nombreuses années, mais savent si peu sur la foi. C'est compréhensible si c'est un nouveau converti, un bébé dans la foi qui apprend encore. Et ils peuvent ne pas comprendre certaines choses sur la foi. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui est dans l'Église depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être plus, et qui ne comprend toujours pas les principes de base de la foi, cela me surprend. Je ne pense pas que l'importance des prédications sur la foi puisse diminuer. C'est par la grâce et par la foi que nous sommes sauvés. Mon ami, la foi est le moyen par lequel nous prenons part aux promesses de Dieu. La foi est le mode de vie que nous devons avoir pour lui plaire. Nous avons parlé de certaines de ces choses. Faisons un résumé. Premièrement, nous avons découvert que Dieu a donné une mesure de foi à chaque chrétien, y compris vous. Il ne vous a pas oublié. Dieu a donné à chaque croyant une mesure de foi. Cela se trouve dans Romains chapitre 12, verset 3. En d'autres termes, il est dit, « Vous avez assez de foi pour faire tout ce que Dieu vous a demandé de faire dans votre vie. Vous aurez assez de foi pour croire concernant tous vos besoins, pour accomplir la volonté de Dieu dans votre vie, si vous utilisez cette foi. » Si vous cultivez cette foi, si vous l'augmentez, ce qui nous amène à la deuxième chose dont nous avons parlé en détail. La foi peut être augmentée. Elle devrait être augmentée. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 3 dit « Votre foi fait de grands progrès. La foi doit progresser. » Nous avons découvert que la foi grandit lorsque nous la nourrissons de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi grandit aussi lorsqu'on l'exerce, tout comme vos muscles. Si vous ne les utilisez pas, ils ne croîtront pas. Je me souviens que pendant quelques années, j'ai soulevé des poids. Je n'en ai peut-être pas l'air maintenant, mais pendant quelques années, j'allais à la salle de gym 4 jours par semaine pour soulever des poids. Et je me souviens que le premier jour où j'ai rejoint cette salle, le propriétaire de la salle s'est approché de moi et a dit « Bon, Béless, voyons ce que tu peux faire. » Alors je me suis mis sur le banc de musculation. Et il y avait 61 kilos sur le banc de musculation. Il m'a aidé à soulever la barre, et je n'arrivais pas à l'enlever de ma poitrine. Mes amis, c'était embarrassant, et j'ai dit « un peu d'aide !» Et il a dû le soulever. Eh bien, vous savez quoi? Après à peu près 2 ou 3 mois, j'utilisais le même poids de 61 kilos. C'est avec cela que je m'échauffais. Et puis, je suis arrivé au point où il m'était assez facile de soulever 90 kilos. Maintenant, je ne soulève plus de poids, mais je l'ai fait assidûment pendant un moment. Et cela a fortifié mes muscles. Mes muscles se sont développés, et notre foi se développera au fur et à mesure que nous l'utiliserons, que nous l'exercerons dans les circonstances de nos vies, tout en faisant confiance uniquement à la parole de Dieu. La troisième chose que nous avons découverte est que la foi sans les œuvres est morte. La foi s'exprime par des actions concordantes. Jacques chapitre 2, verset 26. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mes amis, la foi est un acte. Votre croyance déterminera votre façon d'agir. Vos actions, vos paroles sont l'expression de votre foi. Et puis, nous avons découvert la quatrième chose. Galates chapitre 5, verset 6. La foi qui agit à travers l'amour, le manque de pardon, l'amertume, la haine, l'animosité, la rancune, toutes ces choses vont entraver votre foi. Ils empêcheront la foi d'agir. La foi ne peut jamais se manifester si vous gardez de l'amertume, si vous gardez de la rancune, si vous restez en colère contre quelqu'un. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous devons pardonner comme nous avons été pardonnés. La foi agit à travers l'amour. Si je ne marche pas dans l'amour, la foi n'a rien pour agir. La cinquième chose que nous avons découverte et sur laquelle nous avons passé beaucoup de temps est que la foi vient du cœur, du tréfonds du cœur. Car c'est avec le cœur que nous croyons, pas avec nos sens physiques, pas avec notre pensée, mais c'est avec notre cœur. Je vous encourage à aller réécouter cette portion, car nous y avons consacré beaucoup de temps. Enfin, nous avons conclu la dernière fois en disant que la foi repose exclusivement sur la parole de Dieu. Sa parole est la seule preuve dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin d'un sentiment. Je n'ai pas besoin de la confirmation de quelqu'un d'autre. Ma foi repose exclusivement sur la parole de Dieu. J'aime le centenier romain qui a dit, en d'autres termes, « Seigneur, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus répondit, « Je n'ai pas trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Je me souviens avoir écouté une histoire. » Ou plutôt, j'ai lu l'histoire. C'était un garçon qui avait déménagé dans le Midwest. Je crois que c'était au Minnesota. Et il n'avait jamais été à cet endroit où il y avait des hivers aussi rigoureux. Et il y avait un lac près de là où il vivait. Et le lac était gelé. Alors, il est sorti pour voir l'épaisseur de la glace et il ne pouvait pas dire. Alors, il a fait un pas, simplement avec précaution, un peu sur la glace. Et à chaque bruit, il se figeait simplement. Il faisait un autre pas, et s'il y avait un bruit, il se figeait, et il avait peur. Et cela lui a pris probablement 10 minutes, et il avait fait peut-être 20 pas sur ce lac gelé, et il n'était simplement pas sûr que ça allait tenir. Et puis, tout d'un coup, il a entendu un grand bruit d'écrasement, et il s'est retourné, et au bas d'une vieille route enneigée est apparu un pick-up chargé de bois de chauffage. Et le pick-up a traversé le lac pour aboutir sur une seconde route enneigée de l'autre côté. Il a pensé, « Voici, j'ai juste peur que la glace ne supporte pas mon poids. » Et ce camion, en fait, ce n'était pas un pick-up, c'était un camion plateau. Je pense qu'il y avait 2 larges piles de bois de chauffage à l'arrière. Il a simplement traversé la glace. Il a soudainement réalisé que la glace allait supporter son poids. Mes amis, la parole vous soutiendra. Lisez-la, vous ne coulerez pas. La glace ne se brisera pas. Nous pouvons faire confiance à Dieu. Cela nous amène à notre 7e fait de foi. Votre foi sera mise à l'épreuve. Votre foi sera mise à l'épreuve. 1 Pierre chapitre 1, verset 7 nous dit que la foi passe par un test. Il est dit, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable, et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Notre foi est bien plus précieuse que l'or. L'or périra. Notre foi est éternelle. Et lorsque notre foi passe par une épreuve ardente, elle aboutira à la louange et l'honneur et la gloire lors de la révélation. En d'autres termes, lorsque Jésus-Christ reviendra. Mais la vérité est que votre foi sera éprouvée. Vous passerez par une épreuve ardente. Paul a écrit au jeune Timothée dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 12. Il a dit, « Combat le bon combat de la foi. » Il y a une foi. Il y a un combat de la foi. En effet, entre chaque promesse de Dieu et l'accomplissement de cette promesse, il y a un désert. Et ce désert est l'endroit où vous aurez l'occasion d'abandonner, où vous aurez l'occasion de vous décourager et d'arrêter de croire. Entre chaque promesse et l'accomplissement de cette promesse, il y a un désert. C'est tout simplement comme les Israélites. Dieu leur a donné la promesse d'hériter le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ont dû passer par le désert avant d'arriver aux frontières de la terre promise. Ils ont traversé de nombreuses épreuves et tribulations dans ce désert, où ils ont dû faire confiance à Dieu pour les provisions et faire confiance à Dieu pour les conseils. Et il en est ainsi pour nous. Notre foi sera mise à l'épreuve de nombreuses fois, mon ami. La plupart du temps, la réponse ne vient pas tout de suite. Pensez à Joseph. Dieu donna un rêve à Joseph où lui et ses frères étaient alliés des gerbes au milieu des champs. Et la gerbe de Joseph se tint debout, et les gerbes de ses frères vinrent se prosterner devant la sienne. Il réalisa que cela représentait ses frères. Puis il fit un autre rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles vinrent se prosterner devant lui. Et il le dit à son père. Et son père comprit le rêve. « Tu veux dire que ta mère, moi et tes frères allons nous prosterner devant toi ? Je ne pense pas, mon garçon. » Mais Dieu lui montrait qu'il allait avoir une place d'autorité, une place d'influence même au-dessus de son père, de sa mère et de ses propres frères. Dieu lui montrait ce qui allait se passer. C'était une promesse que Dieu lui donnait dans un rêve. Que se passe-t-il ensuite ? Joseph est jeté dans une fosse par ses frères. Certains avaient l'intention de le tuer, mais ils ont fini par le vendre à des marchands d'esclaves, des Mendianites. Et donc, le voilà ligoté, emmené par des gens, probablement fouetté et battu, et on lui crie dessus dans une langue qu'il ne comprend pas. Il est emmené en Égypte, mis aux enchères, vendu à un homme nommé Potiphar, et devient un serviteur dans la maison de Potiphar. Les choses commencent à s'améliorer. La femme de Potiphar se prend d'affection pour lui et essaie d'amener Joseph à coucher avec elle. Il ne le fait pas. Elle ment. Et ce garçon hébreu a essayé de me violer. On le jette en prison. Joseph était en prison depuis au moins 2 ans. Pensez-y. Il a reçu une promesse de Dieu. Et tout ce qui pouvait mal tourner, tourna mal, il me semble, après cette promesse. Mais il n'y a aucune référence à Joseph abandonnant. Aucune référence à lui devenant rempli d'amertume. Il a maintenu sa relation avec Dieu. Il a maintenu sa confiance. Et en un instant, il a été promu de la prison au palais. Il est devenu le premier ministre de toute l'Égypte. Il a sauvé le monde de la famine et a sauvé sa propre famille. Et en effet, son père, sa mère et ses frères vinrent se prosterner devant lui. Mais entre la promesse que Dieu lui a faite et l'accomplissement de cette promesse, il y avait un désert. Il y avait cet espace que nous traversons tous, où nous sommes tous tentés d'abandonner, de renoncer à nos rêves, de laisser tomber ce que Dieu nous a dit. Concernant la provision, la direction à suivre, la vocation de notre vie, la guérison physique, etc. Votre foi sera mise à l'épreuve. Mais je vous le dis, une fois que vous aurez passé le test, je prie pour que votre foi soit couronnée de louanges, d'honneur et de gloire au moment de la révélation, de l'apparition de Jésus-Christ. Très bien. Numéro 8. Huitième fait de foi. Votre foi ne fonctionnera pas toujours pour un autre. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Votre foi ne fonctionnera pas toujours pour les autres. J'entends souvent des gens dire « Je crois simplement en Dieu pour un tel ou un tel » ou « Je crois que Dieu va faire ceci dans ta vie ». Ok, très bien. L'apôtre Paul a écrit sur la foi mutuelle. Et Jésus a dit, « Si deux d'entre vous se mettent d'accord sur tout ce qu'ils demandent, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. » La foi mutuelle existe. Cela a lieu lorsque notre foi s'entrelace avec une autre. Et nous sommes en accord, et nous demandons quelque chose à Dieu. C'est tout à fait biblique. Mais je ne peux pas simplement entrer dans votre vie et dire, « Je crois en Dieu pour telle chose pour vous. » Je ne peux pas entrer dans votre appartement et réarranger les meubles. Je ne peux pas entrer dans votre maison et corriger vos enfants. Je ne peux pas entrer chez vous, enlever ce tableau et arracher le tapis. Non, je n'ai pas d'autorité chez vous. Et je ne peux pas entrer dans votre vie et exercer ma foi pour vous. Cependant, il y a certaines circonstances où ma foi peut porter un jeune chrétien, un bébé chrétien, quelqu'un qui vient d'arriver à la foi, qui apprend encore à croire en Dieu, qui apprend ce qui lui appartient en Christ. Mais il arrive un moment où Dieu demande à chacun de nous de croire pour lui-même. Il y a peut-être... Ne prenez pas mal ce que je dis. Je réalise que nous sommes le produit du type d'enseignement que nous avons reçu. Et certains d'entre nous ont reçu très très peu d'enseignement en matière de foi. Et par conséquent, nous sommes restés à l'état de nourrisson. Mais Dieu veut que vous grandissiez. Il désire que vous grandissiez. Paul a écrit aux Corinthiens, où l'auteur des Hébreux a écrit, il dit, je paraphrase, « J'ai beaucoup à dire sur ce sujet et des choses difficiles à expliquer car vous avez perdu la foi, alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Dieu veut que nous grandissions dans la foi. Il veut que nous grandissions dans notre compréhension de la grâce. Il veut que nous grandissions dans l'amour. Il veut que nous grandissions dans la compassion. Il veut que nous grandissions spirituellement. Intéressant. Et je vais simplement utiliser ceci comme exemple. Dans Jacques 5, il est dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église. » Et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Très bien, c'est écrit que le malade appelle. Ce n'est pas une autre personne qui appelle. La personne malade doit elle-même exercer sa foi. La personne malade doit elle-même exercer sa foi dans la parole de Dieu, agir sur la parole elle-même. Il n'est pas dit, y a-t-il un malade parmi vous, que quelqu'un d'autre appelle à sa place. Il est dit que le malade appelle. Ceci est intéressant. Cela ne s'est produit que 4 fois dans les évangiles. Seulement 4 fois où quelqu'un est venu demander la guérison au nom d'un autre. Et la guérison a eu lieu. Il y a eu le centenier romain qui est venu au nom de son serviteur. Il y avait la femme syrophénicienne qui est venue au nom de sa jeune fille. Il y avait le noble qui venait au nom de son fils. Et il y avait Jaïrus qui est venu au nom de sa fille. Ce sont les 4 seuls exemples enregistrés que nous avons. Et si vous lisez chaque histoire, vous découvrirez que la personne malade ne pouvait pas venir d'elle-même. Le serviteur du centenier romain était au bord de la mort. La fille syrophénicienne, il est spécifiquement dit que c'était une jeune fille. Elle ne pouvait simplement pas y aller toute seule. Et il est dit qu'elle était gravement tourmentée par un esprit mauvais. Elle ne pouvait y aller seule. Le noble est venu pour son fils qui était au bord de la mort. Son fils ne pouvait pas venir de lui-même. La fille de Jaïrus était au bord de la mort. Elle n'avait que 12 ans. Donc, dans chaque cas, la personne qui était malade ne pouvait pas venir elle-même. Et la personne qui venait avait une raison personnelle avec la personne qui était malade. Dans chaque cas, il y avait une relation personnelle. Il ne s'agissait pas simplement de dire « Oui, j'ai entendu parler de cette personne et je viens pour la tante de mon ami » ou « Je viens pour le cousin d'un tel ou d'une telle » dont j'ai entendu dire qu'il traversait telle ou telle épreuve. Dans les exemples que nous avons mentionnés, on rend évident le fait que la personne affectée ne pouvait pas venir elle-même. La personne qui est venue en son nom avait un lien avec cette personne. Et troisièmement, la foi de la personne qui est venue en son nom est mentionnée. La foi est mentionnée à chaque fois. La personne qui est venue avait confiance en Jésus. Je pense que nous devons rester dans les paramètres qui nous sont donnés. Alors, merci à Dieu si je peux vous aider avec ma foi, surtout si vous êtes un jeune chrétien. Je peux vous soutenir et vous aider pendant que vous grandissez dans les épreuves de Dieu. Mais Dieu veut que vous grandissiez par vous-même. Il veut que vous vous plongiez dans la parole de Dieu. Il veut que vous ayez vous-même une relation de foi avec lui. Il est important de comprendre que votre foi ne fonctionnera pas toujours pour un autre. Peut-être que vous me regardez en ce moment et vous êtes mis au défi. Il se peut simplement que Dieu vous demande de croire en vous-même. Il y a assez longtemps que vous avez été sauvé. Et vous savez quoi? Si vous lisez la parole, la foi viendra à vous. Dieu est fidèle. Il marchera avec vous. Il vous enseignera. Très bien. Notre 9e fait de foi est que cette foi est un mode de vie. Habacuc chapitre 2, verset 4, Romains chapitre 1, verset 7, Galates chapitre 3, verset 11 et Hébreux chapitre 10, verset 38 disent tous que le juste vivra par la foi. La foi n'est pas un bouton de panique que vous appuyez lorsque quelque chose ne va pas. Ce n'est pas une trappe de secours par laquelle vous passez lorsque les choses vont mal. La foi doit être un mode de vie. Le juste vivra par la foi. On doit faire confiance à Dieu en tout chaque jour. C'est notre mode de vie. Ce n'est pas simplement un outil que l'on sort de la cave ou que l'on sort du garage quand nous avons des problèmes, et puis nous le rangeons et ne l'utilisons jamais. La foi est un mode de vie. Le juste vit par la foi. Nous vivons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous apprenons à aller vers Dieu en premier, à soumettre nos vies à l'autorité de sa parole dans tous les domaines de la vie. L'obéissance à sa volonté ne consiste pas simplement à obtenir des choses. Le juste vit par la foi. Et aucun autre mode de vie n'est agréable à Dieu. Sans cela, vous ne pouvez pas lui plaire. Alors, mes amis, encore une fois, il ne s'agit pas d'un bouton de parachute de secours, d'une baguette magique que l'on utilise quand on a des problèmes. Oui, la foi vous aidera quand vous aurez des problèmes, mais votre foi ne fonctionnera probablement pas si elle n'est pas un mode de vie, si vous la sortez et la dépoussiérez uniquement lorsque vous êtes dans une crise. Le juste vivra par la foi. Toute notre vie doit se rapporter à Dieu. Je dois soumettre mon mariage et mon amour pour ma femme à l'autorité de la parole de Dieu. Je dois être un mari selon la Bible. Je dois être un père selon le cœur de Dieu. Je dois bien gérer mes finances. Et je dois donner à Dieu la priorité et le meilleur de moi-même, comme l'Écriture me l'indique. Je dois communier avec les saints et je ne dois pas abandonner mon assemblée ou la communion des autres croyants, comme les Écritures le demandent. Toutes ces choses sont connectées à la foi, l'obéissance à Dieu, l'alignement de ma vie avec sa volonté et la marche par la foi, sachant que Dieu me voit et qu'il m'a donné des instructions dans la Bible pour vivre chaque jour. Et quand je fais cela, et quand je lui soumets tous les domaines de ma vie dans la foi, alors quand la crise arrive, oui, ma foi en sa parole va certainement fonctionner. Très bien, la dixième chose dont je veux vous faire part, et c'est tellement important, Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 2 dit, « Regardant à Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Une autre traduction dit, « Détournez le regard de tout ce qui distrait et restez concentrés sur Jésus. Il est le chef, il est le consommateur, il est le développeur de notre foi. » En vous tournant vers le Seigneur, il perfectionnera les domaines déficients de votre foi. Et encore une fois, il s'agit d'avoir la foi en une personne. J'ai la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai foi en Dieu et dans les déclarations qu'il a faites. Mais en fin de compte, il ne s'agit pas simplement d'un principe. Je comprends les principes de la foi, mais il ne s'agit pas simplement pour moi d'appliquer un principe. Cela découle de la relation que j'ai avec Jésus-Christ. Il est le chef, il est le consommateur, il est le développeur de ma foi. Et si je reste concentré sur lui, si j'ai une relation vivante, respirante, vivante et parlante avec mon Sauveur, et si j'apprends à le connaître par sa parole et par des moments de prière, il développera ma foi par son esprit et par sa parole. Il m'aidera à consolider les domaines dans lesquels ma foi est faible. Il m'aidera à fortifier ma foi. Et de même, il nous aide à développer notre foi par l'intermédiaire des ministres. La Bible dit que les cinq ministères ont été donnés par Dieu pour le perfectionnement de la foi, afin que nous soyons pleinement matures en Christ. Les Éphésiens parlent de cela. Dans 1 Thessaloniciens, Paul écrit, il dit, « Nuit et jour, priant intensément pour que nous puissions voir votre visage et que nous puissions perfectionner ce qui manque à votre foi. » Paul a compris que Dieu allait se servir de lui auprès des Thessaloniciens pour les aider à perfectionner ce qui était déficient dans leur foi. Dieu utilise des ministres. Dieu utilise quelque chose comme cela. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si vous m'écoutiez en ce moment. Si vous avez écouté ce message et les précédents, où nous avons parlé de ces éléments fondamentaux de la foi, je suis sûr que cela vous a aidé à consolider certains points faibles de votre foi. Aider à parfaire, ce mot perfectionner, signifie amener à maturité certains domaines qui ont été déficients dans votre foi. Dieu utilise des pasteurs. Dieu utilise des enseignants de la Bible. Dieu utilise des ministres ainsi que notre temps personnel dans la parole et dans la prière. Vous devez fréquenter une église évangélique qui enseigne la Bible, qui n'a pas honte du nom de Jésus et qui aime la parole de Dieu. Cela vous aidera à grandir dans votre foi. Cela vous aidera à développer votre foi. La Bible dit en d'autres termes, « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, sur qui la foi repose du début à la fin. » Regardons à Jésus et faisons-lui confiance pour qu'il expose les failles et les déficiences de notre foi et pour nous encourager et nous aider à faire grandir notre foi en son précieux nom. Mes amis, merci de vous être joints à moi. Vous avez simplement besoin de savoir que Dieu vous aime. Peut-être que personne dans votre vie ne vous le dit, mais je veux vous le dire. Vous êtes aimés. Dieu vous aime. Il n'est pas contre vous. Il est pour vous. Il veut vous aider. Et si vous le permettez, je vous aime aussi. Je prie pour que le meilleur et le plus riche de Dieu soit toujours votre partage. Amen.
Avez-vous des questions sur l'émission ou est-ce que quelque chose vous préoccupe pour lequel nous pouvons prier? Alors écrivez-nous, notre équipe apprécierait avoir de vos nouvelles.